It don't mean a thing if it ain't got that swing.
L'épopée des musiques noires.
Joe Farmer, Nathalie Laporte.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing. Jiggy da, kani jiggy mi senya, omani kobena.
It's okay, you know, it's okay.
Ce que vous venez d'entendre est pour moi l'identité sonore parfaite de notre invité du jour. Il est bassiste, compositeur de grand talent, virtuose incomparable et son humilité n'a d'égal que sa maestria. Il nous présente aujourd'hui un nouveau groupe, The Prophets, et un nouvel album, Our Near, Our Far. Nous avons le bonheur d'accueillir un ami de la famille, l'immense Étienne Bappé. Soyez le bienvenu.
Merci, bonjour à tous.
Vous l'aurez compris, je suis plutôt fan de vos œuvres, Étienne Bappé, mais je dois reconnaître que ce nouvel album m'a vraiment épaté techniquement. Comme musicalement, les prouesses de haute volée n'altèrent pas le groove de votre jazz. Et c'est un voyage musical que vous nous proposez de Lagos au Nigeria à Buenos Aires, en Argentine, avec une fluidité enthousiasmante. Avant de parler de la musique, parlons du groupe The Prophets. Doit-on y voir une religiosité affirmée, les prophètes ?
Pas vraiment de religiosité. Je pense que dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, quand on est capable d'amener un sourire, quand on est capable d'amener de l'amour, quand on est capable de tout simplement de donner certains bien-être à des gens, je pense qu'on est un prophète aujourd'hui pour moi. Voilà. Et le monde est dans un état aujourd'hui, on ne sait pas très bien. Et moi, je suis très touché par tout ce que je vois et par tout ce que je voyage beaucoup, j'ai beaucoup de chance. Et le monde va mal, on va dire. Voilà. Donc quand on est capable de donner un sourire à un enfant, un clin d'œil à un grand, et à travers la musique, pour moi, on est tout simplement un prophète. C'est d'où le nom. Les prophètes.
Donc en fait, ces prophètes ne transmettent qu'un message d'ouverture à travers la musique.
Complètement, complètement.
Quand on observe les crispations du monde que vous évoquiez justement, quel rôle peut jouer l'artiste ? Celui du médiateur ?
Bah, celui en tout cas qui amène autre chose, une autre vision, qui aide peut-être les gens aussi à voir un peu différemment, à voir autrement aussi. Ça veut dire, vous recevez de l'amour, vous recevez de la musique, vous recevez quelque chose. Et ça vous change un peu de votre quotidien. Voilà, j'imagine que quand on... Dans les pays où ça bombarde en ce moment, dans les pays où ça va mal, si, je sais pas, il y a quelqu'un qui peut y aller et leur chanter une chanson le soir, ou une berceuse pour les enfants, je suis sûr qu'ils dormiraient mieux, même dans ces éclats de bombes et tout ça. Quoi. Voilà, le message, il est juste là. C'est... Je pense qu'on a besoin de cela. Il y a un très très grand qui s'appelle John Lennon qui a dit un jour « All we need is love ». Et je pense que dans le monde aujourd'hui, « All we still need is that love ». Voilà.
Finalement, ce que vous dites, c'est que la musique est une force d'apaisement universel, quel que soit l'endroit où vous produisez ou les différences culturelles des spectateurs que vous rencontrez.
Complètement, moi j'y crois. Et je crois en ce message-là, je crois en ce message universel de la musique qui arrive et qui vient égayer, changer les gens et peut-être parfois changer les mentalités aussi. Parce qu'à travers la musique, on les fait voyager aussi. On les amène dans des contrées qu'eux n'ont peut-être pas visitées, que le public n'a pas visitées. On leur parle de soi, on leur parle des voyages qu'on fait, des gens qu'on rencontre, des couleurs qu'on voit et tout ça. Je pense que c'est important. Et c'est, ils sont là devant nous, ils regardent et quand on les voit savourer, bah, ça nous fait très très plaisir. Et notre rôle, il est là aussi.
Chacun des titres de votre nouvel album nous invite au voyage. On y décèle les effluves de certaines régions du monde. Le Maghreb, comme à l'instant sur Make It Easy, ou le Nigeria, bien sûr, avec Lagos Market.
Absolument.
J'imagine que les titres des compositions ont chacun une histoire.
Oui, complètement, oui. C'est-à-dire qu'en fait, quand je compose, moi, c'est les mélodies qui me viennent. Voilà, j'essaye d'arranger tout ça, je me mets à ma table et je travaille. Et forcément, la mélodie, parfois, elle est née quelque part. Elle est née... à travers un voyage. Comme j'ai dit plus tôt, que je voyageais beaucoup, j'ai vraiment cette chance-là. Et la mélodie, elle est née, je ne sais pas, au Maroc, elle est née, je ne sais pas, en Algérie, elle est née au Japon, elle est née je ne sais pas où. Et forcément, je ramène à travers ces voyages-là des couleurs, des odeurs, des saveurs dont forcément je suis imprégné et qui rejaillissent à travers ma musique. Et forcément, quand je fais ma petite cuisine, je la sers aux gens, quoi.
Par exemple, Bandit Queen. La reine des bandits.
Voilà, la reine des bandits. C'est une histoire qui se situe en Inde. J'étais fasciné par un reportage que j'ai vu déjà ici en France, qui parlait de cette reine des bandits qui est sortie de, on ne sait pas où, à côté de Bombay, et qui a eu une enfance, une adolescence très très dure. Bon, je vous parle de violée, enfin tout, rien de ce qu'on souhaite à une jeune fille modèle. Et voilà, elle a fini comme bandite, donc des grands chemins. Et c'est incroyable comme cette dame-là qui s'appelait Poulan Devi, elle s'est retrouvée à Delhi au Parlement indien. C'est-à-dire, le chemin entre bandite des grands chemins et au Parlement indien, il faut le faire. Et malheureusement, elle-même, elle a fini trucidée par un des bandits. C'est-à-dire, en sortant du Parlement un jour, en arrivant chez elle, boum, 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 elle a été butée devant chez elle. Et voilà, ça raconte cette histoire-là. Et forcément, dans ce morceau Bandit Queen, on voit donc, on sent des relents de couleurs un peu indiennes comme ça. Et j'ai eu la chance de visiter l'Inde, au moins, je pense que je dois être à mon 7e ou 8e voyage. Donc c'est un pays que je connais un peu, dans différentes régions, j'ai beaucoup d'amis musiciens là-bas, et voilà, je relate comme ça des faits, c'est pas une apologie du banditisme, je relate juste, je rends compte de l'histoire de cette femme-là. Commencer comme bandite des grands chemins, une espèce de Robin des Bois, c'est-à-dire qu'il volait aux riches pour aller donner aux pauvres, et finir au Parlement indien, c'est assez inusuel comme parcours quand même. Voilà.
Et Lagos Market ?
En fait, Lagos Market, en fait, c'est un marché qui se situe à Douala, au Cameroun.
D'accord.
Oui, moi, de ma plus tendre enfance, j'ai toujours entendu ma grand-mère dire « Namala Donla Lagos », ça veut dire « je vais au marché Lagos ». Alors, pourquoi ce marché s'est appelé Lagos ? Peut-être parce qu'il y avait une grosse communauté nigériane qui habitait pas loin de ce marché. Et à travers ce morceau, évidemment, Lagos Market, je rends hommage à qui ? Quand on entend le beat de Lagos, je rends hommage au grand Fela, à Nicolas Pokoti, à Kinsune Ade, à tous ces grands musiciens, aussi du Nigeria qui m'ont fait rêver. Le Nigeria est un pays voisin de mon pays d'origine, le Cameroun. Donc voilà, Lagos Market, c'est un trait d'union entre Douala et Lagos.
Donc nous allons nous plonger dans l'agitation de la mégalopole nigériane à travers la ville de Douala et Étienne Bappé. Voici Lagos Market. personnellement, j'adore. Lagos Market, un extrait du nouvel album d'Étienne Mbappé and the Prophets, intitulé How Near, How Far. Étienne Mbappé, vous qui avez joué avec tout le monde, de Ray Charles à Carlos Santana, Salif Keita, Manu Dibango, j'en passais des meilleurs, est-ce que vous apprenez toujours de vos rencontres avec d'autres musiciens? Est-ce que vos multiples collaborations ne font pas de vous un artiste complet qui s'adaptera toujours à toutes les situations?
Honnêtement, j'espère que je ne serai jamais un artiste complet, parce que ce qu'il y a de bien, fût-il prestigieux ou pas, hein, c'est-à-dire c'est pas parce qu'il s'appelle Santana, j'apprends autant d'un pygmée baka qui me joue sa flûte pygmée, et voilà, ce que j'aime bien, c'est le côté rencontre en fait dans tout ça. Le côté rencontre, c'est-à-dire on va faire de la musique ensemble, mais au-delà de la musique, qui es-tu? Moi je suis un tel, qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on boit? On se rencontre, qu'est-ce que tu habites où? C'est surtout ça, c'est le côté humain qui va aussi avec le côté musique. Après, c'est la surprise, parce que quand c'est un pygmée baka et qui me joue sa flûte, évidemment, je suis émerveillé par un bout de roseau qui est supposé faire un seul son, et lui, il en fait mais plein, avec sa voix aussi en même temps. Donc, forcément, j'entrevois des choses qu'on peut faire ensemble musicalement, et donc ça me plaît. Là, je suis complètement en effervescence en moi, parce que ça me parle, tout simplement. Ça peut être un guitariste de rock, un guitariste de blues, un joueur de koto japonais, que sais-je encore. Et c'est ces rencontres-là, au-delà des grandes stars, Ray Charles, que j'ai pu rencontrer, c'était vraiment pour moi, j'étais comme un enfant devant eux, parce qu'ils m'ont fait rêver, évidemment. Et je profitais un peu d'eux aussi, c'est-à-dire qu'ils me racontaient des histoires, et j'étais là, quand même, je parle à une légende, quand même. Et ça me plaît aussi, parce que là, je deviens comme un petit enfant, peut-être. Et voilà, ça me plaît, c'est le côté rencontre qui me plaît, et qui, si ça découle de la bonne musique, c'est tant mieux.
Puis garder son émerveillement, tout simplement.
Bien sûr, tout simplement, comme un enfant.
Est-ce que le fait d'avoir jadis travaillé avec le pianiste Josawi Noul ne vous a pas préparé à toutes sortes de répertoires, de contextes et de prestations? Lui qui était un touche-à-tout de génie.
C'est vrai. Mais je pense que bien avant Zawinul, il y avait déjà des gens comme le grand orchestre de Rideau Bayonne, il y avait déjà l'aventure ultramarine, je pense que c'est une chance pour moi d'être arrivé à Paris en fin des années 70 et d'avoir été un témoin privilégié de ce qui découlera et qu'on appellera par la suite World Music, etc. etc. J'étais à Paris quand ça se créait aussi ici, et comme musicien de studio, à rencontrer des Indiens, des Arabes, des Mexicains, toutes sortes, voilà, c'est ça aussi Paris, comme New York, comme plein de grandes capitales. Et ça me plaît énormément, parce que ça m'a préparé, avant de jouer avec Xavier Niel, à cette rencontre avec Xavier Niel, j'allais dire. Et quand Xavier Niel est venu à Paris réaliser le disque de Salif Keita en 91, par là, 91-92, le disque Amen de Salif Keita, quand il nous a vus, Paco Seri, le batteur et moi, il a dit, mais vous habitez ici? Oui, on habite ici. Parce que quand on a commencé à lui jouer Weather Report et tout ça, il était, vous connaissez ça? Un peu, oui, qu'on connaît ça. Voilà. Et c'est toujours cette rencontre qui fait qu'on se rencontre, on joue ensemble, on crée de la musique ensemble. Et c'est pour mon plus grand bonheur avant tout.
Vous rendez hommage à Josawi Noul sur votre dernier album. Oui. Pourquoi? Que représentait-il à vos yeux?
Il représentait cette grande figure, comme le premier titre de l'album aussi qui est dédié à John McLaughlin, avec lequel je travaille encore aujourd'hui. Ces gens-là ont changé le jazz, j'allais dire. Ils ont connu Miles Davis, ils ont connu toute cette époque-là, ils ont joué, c'est des enfants de Miles, ils ont tous les deux d'ailleurs, Xavier Niel et McLaughlin jouaient avec Miles. Et je pense qu'eux, ils ont rajouté justement ces épices qui viennent d'ailleurs dans cette vision du jazz classique. John McLaughlin à travers ses expériences Shakti, Mahavishnu Orchestra et tout ça, et Josawi Noel à travers le Weather Report. Donc, la première fois que j'ai entendu ces musiques-là, je me suis dit, c'est marrant, c'est d'où il sort ce jazz-là? Et voilà, c'est ça qui m'a plu. Donc, forcément, qu'ils m'ont transmis un peu de ça, quoi. Moi-même, déjà, venant d'ailleurs, vivant à Paris, j'avais déjà des racines qui étaient africaines. Donc, me servant un peu de leur exemple, je me suis dit, tiens, s'ils l'ont fait, c'est que c'est possible. Donc, ça veut dire que la musique n'a donc pas de frontières. Le jazz classique a été mélangé déjà par Miles. Il y a amené le côté électronique, sa trompette, il a mettait dans une wah-wah, dans des sons complètement distorsion et tout ça. Et voilà, c'était pour moi, c'est un process de création qui prouve bien que la musique, elle n'a pas de frontières et que si elle ne touche pas et que les puristes du jazz n'aimeront pas ça, mais elle croisera d'autres gens qui adoreront ça. Voilà, donc ça veut dire qu'elle n'a pas de frontières. On peut y mettre ce qu'on veut à partir du moment où on y croit et qu'on arrive à être serein, à être métissé, tout simplement, quoi.
Vous utilisez exactement le mot que j'allais utiliser moi-même, le métissage. Est-ce qu'on peut dire que Josawi Noel, à travers Miles Davis, Weather Report et Josawi Noel Syndicate, qui était son groupe, a proposé justement une ouverture musicale dans l'histoire du jazz et dans l'épopée des musiques noires?
Ah, complètement. Josawi Noel, comme Miles Davis, comme presque John aujourd'hui, à un moment donné, jouer un standard de jazz, c'était plus un kiff, un plaisir pour eux. Ça veut dire que même si c'était un standard chanté par Ella Fitzgerald, Fitzgerald et Louis Armstrong, ben, ils y ramenaient quand même quelque chose qui disait waouh, est-ce que c'est le même standard? Et c'est ça qui est super pour moi, les gens de ma génération, c'est découvrir cette musique-là en disant waouh. Quand on remonte aux origines, oui, c'est le jazz classique, mais quand on arrive à Weather Report, à Mahavishnu, à tous ces courants musicaux, bah, c'est le jazz toujours, parce que l'essence même, c'est l'improvisation, c'est le côté inconnu. On crée la cuisine là, sur place, c'est pas du fast-food. Et ça me parle, évidemment, parce que je suis né ailleurs et parce que j'ai connu d'autres saveurs. Et comme je le dis, et je le continue de le dire, je voyage beaucoup, donc je croise beaucoup de cultures, beaucoup de gens aujourd'hui qui m'inspirent tout simplement. Et quand je reviens dans ma cuisine à moi, je me dis, bon, je vais mettre mon épice africaine ici, mais mon Dieu, ce que j'ai entendu là en Inde, ça m'a beaucoup plu. Ce que j'ai entendu là en Suède, ça m'a parlé aussi. Ce que j'ai entendu, voilà. Et donc, je m'occupe de ça à ma manière à moi et je la sers, comme avec The Prophets, cet album How Near Afar.
Qu'aviez-vous à l'esprit quand vous avez composé Day Message to Joe Zawinul?
Ben, je me suis surtout rappelé que le premier morceau que j'ai entendu de ce groupe Weather Report, c'était un morceau qui s'appelait Night Passage. Voilà, du même album, de l'album du même nom, Night Passage. Donc Night Passage, j'ai failli appeler le morceau Day Passage. Mais je me suis dit non, je vais lui adresser un message en pleine journée. Et donc j'ai fait un Day Message en hommage à Night Passage.
Day Message to Joe Zawinul, Étienne Bappé dans l'épopée. Day Message to Joe Zawinul, le clin d'œil d'Étienne Bappé à l'un de ses mentors. Un titre dans lequel vous avez réussi à revitaliser la tonalité jazz de Joe Zawinul. Et puis, il était un grand connaisseur des cultures africaines. Il a accueilli dans son groupe, vous le disiez, Richard Bonnat, Paco Seri, Abdoum Boub, Shakti Diansek et vous-même.
Absolument.
Quel souvenir vous garderez de votre collaboration avec Joe Zawinul?
Je pense que Joe s'intéressait à tout ce qui ne lui rappelait pas ni l'Europe ni les États-Unis, j'allais dire. Voilà. C'est-à-dire, quand on venait d'ailleurs, on l'intéressait au plus haut point. Et un de mes souvenirs, enfin, que je garde, je pense même que c'est plus qu'un enseignement, c'est quand il m'envoyait au micro chanter, je ne savais pas quoi, il me disait juste, tu vas au micro et t'y vas. Ah bon, et moi donc j'allais, bon, parfois c'était du yaourt parce que c'était pas préparé, parfois j'essayais très très vite parce que c'était vraiment, il te faisait signe, il fallait aller au micro là comme ça, hein, c'est-à-dire le doigt, c'était, il montrait le micro, c'était, il fallait y aller et créer quelque chose. Tout de suite là. Et donc, parfois c'était des histoires qui arrivaient comme ça, parfois c'était une mélodie mimée, et il me posait des harmonies absolument fabuleuses derrière. Et c'était quelqu'un de très spontané, qui cultivait vraiment ça, qui cultivait, il fallait l'abreuver d'informations d'ailleurs. Je ne suis pas sûr qu'il connaissait vraiment tant que ça l'Afrique, mais par contre, toutes les sonorités, voilà. Il connaissait les sonorités et les voix mandingues, les mélodies mandingues, il posait tout de suite les mots, les bons accords, très surprenant. Et voilà, quand on a quelqu'un comme ça, on apprend à cuisiner de la même manière. Voilà.
Revenons aux Prophètes, ce sont principalement des jeunes musiciens qui vous accompagnent.
Oui.
Est-ce que le fait d'avoir passé la cinquantaine, d'avoir désormais une longue et prestigieuse carrière, vous identifie auprès des nouveaux venus comme un référent, un exemple, un modèle, un tuteur?
Bah écoutez, quand je les entends parler, parfois ça peut être... Déjà, ils m'appellent monsieur. je les rencontre, je dis hey, bonjour, bonjour monsieur. Bon, allez, moi c'est Étienne, on va arrêter le monsieur. Donc, je pense que c'est naturellement, je le suis, je crois, parce que j'ai plusieurs formations, ils ont entendu Soul Attaqué, ils ont écouté mes disques, et là ils entendent les prophètes. Donc, naturellement, je leur transmets, comme certains aînés, notamment en Afrique, m'ont transmis la connaissance dans une école qui n'avait pas de mur, j'allais dire. Voilà, c'est par la transmission orale à l'africaine. Donc, pour ceux que je côtoie de plus près, ceux qui font partie du groupe, naturellement, je leur transmets. En fait, ils sont libres de prendre ce qu'ils veulent, en fait. Hein. Moi, je suis comme un puits, vas-y, puisez de l'eau, moi, je suis là, je vous... voilà. Et s'ils prennent, ben, c'est tant mieux pour eux, comme moi, j'ai pris à travers John McLaughlin, à travers Joe Zawinul, à travers Salif Keita, à travers toutes ces collaborations. Voilà, c'est ça aussi, on se transmet les trucs. Comment on gère la scène? Ah, bon, à l'époque, quand je faisais de la variété française, j'ai croisé des grands artistes comme Michelin, Jonas et tout ça. Les voir gérer des zéniths, ça me faisait rêver en disant, waouh, ce soir, il y a 7000 personnes et il arrive à gérer 7000 personnes comme ça. C'est tout simplement... Alors, le jazz en général, c'est des publics un peu plus réduits, mais
encore
pas.
Que dans les festivals,
encore
il y a beaucoup
que,
de
monde. Voilà, dans les festivals aujourd'hui, le jour où je me retrouverai là, comment je vais gérer ça? Bah, c'est toute une école, tout un apprentissage aussi à travers ces rencontres-là, même dans la variété française. Voilà, un artiste est un artiste, quelle que soit la musique qu'il fait. Voilà, on juge pas la musique, c'est juste la musique, elle est universelle, elle parle à un public ou pas. Voilà. Donc moi, j'apprends tous les jours. Et quand je n'apprends pas, je suis pas content. Donc je vais dans les clubs, je vais apprendre des jeunes, parce que je leur donne, mais ils m'en donnent beaucoup aussi.
On sent en tout cas clairement que vous êtes fait plaisir sur votre dernier album, notamment sur cette folie créative intitulée Bad As I'm Doing, une sorte de délire parfaitement contrôlé mais tellement jouissif. D'où sortez-vous toute cette musique de Barjo si bien maîtrisée?
Elle sort de ma tête et comme ma tête elle est souvent ailleurs... C'est ça. Ma tête est souvent ailleurs. À travers cette chanson, vous savez, je vous l'ai dit au début de notre entretien, le monde va mal et parfois je vais mal quand le monde va mal. Parce que ça ne va pas et bad as I'm doing, ça veut dire aussi mal que je vais. Aussi mal que je vais, c'est un côté, en anglais on dit twisted, un peu... quand mon cœur il est un peu froissé, quand mon intérieur est un peu se pose des questions existentielles sur le sens de la vie, pourquoi ces atrocités, pourquoi ça, et du coup je vais mal, et du coup ben, ça donne des expériences comme Bad As I'm Doing, c'est-à-dire c'est un morceau qui parle tout seul, c'est-à-dire on le prend dans la figure comme moi je prends parfois la misère humaine dans la figure. Voilà.
Écoutons cet ovni fantastique. Une folie furieuse. Bad As I'm Doing, Étienne Mbappé and the Prophets, extrait du nouvel album Our Near, Our Far. Je signale, Étienne Mbappé, que vous serez sur la scène du Divan du Monde à Paris dans le 18e, le 1er décembre prochain. Je signale également que vous reprenez la route avec le guitariste John McLaughlin au printemps 2017 pour célébrer les 75 ans de ce formidable virtuose. Et j'ai ouï dire qu'il jouera le répertoire de Mahavishnu Orchestra.
Oui. Absolument, c'est en question.
Musique aussi très difficile à jouer.
Très pas évidente, voilà. Je pense qu'il y a un rapport, par exemple, avec ce morceau et Mahavishnu Orchestra, c'est-à-dire que créations comme ça, on ne sait pas d'où elles sont tirées, elles sortent de nos têtes, et bon voilà, ça fait partie de la musique, et bien, il faut la jouer.
Hors antenne, pendant que nous écoutions ce titre, Étienne Mbappé a essayé de m'expliquer ce que c'était qu'un 12-8. Eh bien, je prendrai des cours une autre fois. Pour revenir à John McLaughlin, on vous verra ensemble à Paris le 1er mars, au New Morning.
Absolument.
Et puis aussi à Budapest, Prague, Munich, Milan, Zurich, Berlin, Londres, etc. London, etc. Merci mille fois, Étienne Mbappé, de votre générosité, de votre passion communicative.
Merci infiniment. Merci.
Et donc, rendez-vous le 1er décembre au Divan du Monde, à Paris, 18e, juste à côté de chez moi. La semaine prochaine, nous accueillerons la chanteuse et guitariste américaine Natalia M. King, qui nous présentera son nouvel album, Blues In Till Dawn, et nous parlera de son goût pour les grandes voix d'autrefois, Nina Simone ou Billie Holiday, entre autres. Merci à Nathalie Laporte, qui ne chante pas, mais réalise avec soin cette émission chaque semaine. Passez une bonne semaine, on se retrouve dans 8 jours. Dans quelques instants, le journal.
Elle danse, Nathalie.
Sol majeur.